Blaise Pascal, Pensée. Chapitre 24, Pensée morale. Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle, où se trouvent tous les hommes en naissant. L'autre extrémité est celle où arrivent les grandes âmes qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu'ils ne savent rien, et se rencontrent, dans cette même ignorance, d'où ils étaient partis. Mais c'est une ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle et n'ont pu arriver à l'autre, ont quelques teintures de cette science suffisante et font les entendus. Cela trouble le monde, et juge plus mal de tout que les autres. Le peuple et les habiles composent pour l'ordinaire le train du monde. Les autres le méprisent et en sont méprisés. Le peuple honore les personnes de grande naissance. Les demi-habiles les méprisent, disant que la naissance n'est pas un avantage de la personne mais du hasard. Les habiles les honorent, non par la pensée du peuple, mais par une pensée plus relevée. Certains zélés, qui n'ont pas grande connaissance, les méprisent malgré cette considération qui les fait honorer par les habiles, parce qu'ils en jugent par une nouvelle lumière que la piété leur donne. Mais les chrétiens parfaits les honorent par une autre lumière supérieure. Ainsi se vont les opinions, succédant du pour au contre, selon qu'on a de la lumière. L'âme aime la main, et la main, si elle avait une volonté, devrait s'aimer de la même sorte que l'âme l'aime. Tout amour qui va au-delà est injuste. Qui adhérent domino, unus spiritus est. On s'aime parce qu'on est membre du corps dont Jésus-Christ est le chef. On aime Jésus-Christ parce qu'il est le chef du corps dont on est membre. Tout est un. L'un est en l'autre. Si les pieds et les mains avaient une volonté particulière, jamais ils ne seraient dans leur ordre, qu'en soumettant cette volonté particulière à la volonté première qui gouverne le corps entier. Hors de là, ils sont dans le désordre et dans le malheur. Mais, en ne voulant que le bien du corps, ils font leur propre bien. La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions purement humaines. La concupiscence fait les volontaires, la force les involontaires. D'où vient qu'un boiteux ne nous irrite pas et qu'un esprit boiteux nous irrite? C'est à cause qu'un boiteux reconnaît que nous allons droit et qu'un esprit boiteux dit que c'est nous qui boitons. Sans cela, nous en aurions plus de pitié que de colère. Épictète demande aussi pourquoi nous ne nous fâchons pas si on dit que nous avons mal à la tête et que nous nous fâchons de ce qu'on dit que nous raisonnons mal ou que nous choisissons mal. Ce qui cause cela, c'est que nous sommes bien certains que nous n'avons pas mal à la tête et que nous ne sommes pas boiteux, mais nous ne sommes pas si assurés que nous choisissions le vrai. De sorte qu'en ayant d'assurance qu'à cause que nous le voyons de toute notre vue, quand un autre voit de toute sa vue le contraire, cela nous met en suspens et nous étonne, et encore plus quand mille autres se moquent de notre choix. Car il faut préférer nos lumières à celles de tant d'autres, et cela est hardi et difficile. Il n'y a jamais cette contradiction dans les sens touchant un boiteux. Le peuple a les opinions très saines, par exemple d'avoir choisi le divertissement et la chasse plutôt que la poésie, Les demi-savants s'en moquent et triomphent à montrer là-dessus la folie du monde. Mais par une raison qu'ils ne pénètrent pas. On a raison d'avoir aussi distingué les hommes par le dehors, comme par la naissance ou le bien. Le monde triomphe encore à montrer combien cela est déraisonnable. Mais cela est très raisonnable. C'est un grand avantage que la qualité qui, des 18 ou 20 ans, met un homme en passe, connu et respecté, comme un autre pourrait avoir mérité à 50 ans. Ce sont 30 ans gagnés sans peine. Il y a de certaines gens qui, pour faire voir qu'on a tort de ne les pas estimer, ne manquent jamais d'alléguer l'exemple de personnes de qualité qui font cas d'eux. Je voudrais leur répondre. Montrez-nous le mérite par où vous avez attiré l'estime de ces personnes-là, et nous vous estimerons de même. Les choses qui nous tiennent le plus à cœur ne sont rien le plus souvent, comme par exemple de cacher qu'on est peu de bien. C'est un néant que notre imagination grossit en montagne. Un autre tour d'imagination nous le fait découvrir sans peine. Il y a des vices qui ne tiennent à nous que par d'autres, et qui, en ôtant le tronc, s'emportent comme des branches. Quand la malignité a la raison de son côté, elle devient fière et étale la raison en tout son lustre. Quand l'austérité ou le choix sévère n'a pas réussi au vrai bien, et qu'il faut revenir à suivre la nature, elle devient fière par le retour. Ce n'est pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement, car il vient d'ailleurs et de dehors, et ainsi il est dépendant, et par conséquent, sujet à être troublé par 1000 accidents qui font les afflictions inévitables. Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, il ne faut que les appliquer. Par exemple, on ne doute pas qu'il ne faille exposer sa vie pour défendre le bien public, et plusieurs le font. Mais pour la religion, peu. On ne passe point dans le monde pour se connaître en vers si l'on a mis l'enseigne de poète, ni pour être habile en mathématiques si l'on a mis celle de mathématicien. Mais les vrais honnêtes gens ne veulent point d'enseigne, et ne mettent guère de différence entre le métier de poète et celui de brodeur. Ils ne sont point appelés ni poètes ni géomètres, mais ils jugent de tout cela. On ne les devine point. Ils parleront des choses dont l'on parlait quand ils sont entrés. On ne s'aperçoit point en eux d'une qualité plutôt que d'une autre, hors de la nécessité de la mettre en usage. Mais alors, on s'en souvient, car il est également de ce caractère qu'on ne dise point d'eux qu'ils parlent bien, lorsqu'il n'est pas question du langage, et qu'on dise d'eux qu'ils parlent bien quand il en est question. C'est donc une fausse louange quand on dit d'un homme, lorsqu'il entre, qu'il est fort habile en poésie, et c'est une mauvaise marque quand on a recours à lui que lorsqu'il s'agit de juger de quelques vers. L'homme est plein de besoins, il n'aime que ceux qui peuvent les remplir. C'est un bon mathématicien, dira-t-on. Mais je n'ai que faire de mathématiques. C'est un homme qui entend bien la guerre, mais je ne la veux faire à personne. Il faut donc un honnête homme qui puisse s'accommoder à tous nos besoins. Quand on se porte bien, on ne comprend pas comment on pourrait faire si on était malade. Et quand on l'est, on prend médecine gaiement. Le mal y résout. On n'a plus les passions et les désirs des divertissements et des promenades que la santé donnait, et qui sont incompatibles avec les nécessités de la maladie. La nature donne alors des passions et des désirs conformes à l'état présent. Ce ne sont que les craintes que nous donnons nous-mêmes, et non pas la nature, qui nous trouble, parce qu'elles joignent à l'état où nous sommes les passions de l'état où nous ne sommes pas. Les discours d'humilité sont matière d'orgueil aux gens glorieux et d'humilité aux humbles. Aussi ceux de pyrrhonisme et de doute sont matière d'affirmation aux affirmatifs. Peu de gens parlent de l'humilité humblement, peu de la chasteté chastement, peu du doute en doutant. Nous ne sommes que mensonges, duplicité, contrariété. Nous nous cachons et nous déguisons à nous-mêmes. Diseur de bons mots, mauvais caractère. Le mot de « moi », dont l'auteur se sert dans la pensée suivante, ne signifie que l'amour-propre. C'est un terme dont il avait accoutumé de se servir avec quelques-uns de ses amis. Le « moi » est haïssable. Ainsi, ceux qui ne l'ôtent pas et qui se contentent seulement de le couvrir sont toujours haïssables. Point du tout, direz-vous. Car en agissant comme nous faisons obligeamment pour tout le monde, on n'a pas sujet de nous haïr. Cela est vrai si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. Mais si je le hais parce qu'il est injuste et qu'il se fait centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait le centre de tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir. Car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste, et ne pouvez plaire qu'aux injustes. Je n'admire point un homme qui possède une vertu dans toute sa perfection, s'il ne possède en même temps, dans un pareil degré, la vertu opposée. Tel qu'était Épaminondas, qui avait l'extrême valeur, jointe à l'extrême bénignité. Car autrement ce n'est pas monter, c'est tomber. On ne montre pas sa grandeur pour être en une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois, et remplissant tout l'entre-deux. Mais peut-être que ce n'est qu'un soudain mouvement de l'âme de l'un à l'autre de ces extrêmes, et qu'elle n'est jamais en effet qu'en un point, comme le tison de feu que l'on tourne. Mais au moins, cela marque l'agilité de l'âme, si cela n'en marque l'étendue. Si notre condition était véritablement heureuse, il ne faudrait pas nous divertir d'y penser. J'avais passé beaucoup de temps dans l'étude des sciences abstraites, mais le peu de gens avec qui on en peut communiquer m'en avait dégoûté. Quand j'ai commencé l'étude de l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne lui sont pas propres, et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en les ignorant, et je leur ai pardonné de ne s'y point appliquer. Mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons dans l'étude de l'homme, puisque c'est celle qui lui est propre. J'ai été trompé. Il y en a encore moins qui l'étudient que la géométrie. Quand tout se remue également, rien ne se remue en apparence, comme en un vaisseau. Quand tous vont vers le dérèglement, nul ne semble y aller. Qui s'arrête fait remarquer l'emportement des autres, comme un point fixe. Quand on veut reprendre avec utilité et montrer à un autre qu'il se trompe, il faut observer par quel côté il envisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce côté-là, et lui avouer cette vérité. Il se contente de cela parce qu'il voit qu'il ne se trompait pas et qu'il manquait seulement à voir tous les côtés. Or, on n'a pas de honte de ne pas tout voir, mais on ne veut pas s'être trompé. Et peut-être que cela vient de ce que naturellement l'esprit ne peut se tromper dans le côté qu'il envisage comme les appréhensions des sens sont toujours vraies. La vertu d'un homme ne se doit pas mesurer par ses efforts, mais par ce qu'il fait d'ordinaire. Les grands et les petits ont mêmes accidents, mêmes fâcheries et mêmes passions. Mais les uns sautent au haut de la roue et les autres près du centre, et ainsi moins agités par les mêmes mouvements. On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a trouvées soi-même que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Quoique les personnes n'aient point d'intérêt à ce qu'ils disent, il ne faut pas conclure de là, absolument, qu'ils ne mentent point, car il y a des gens qui mentent simplement pour mentir. L'exemple de la chasteté d'Alexandre n'a pas tant fait le continent que celui de son ivrognerie a fait d'intempérant. On n'a pas de honte de n'être pas aussi vertueux que lui, et il semble excusable de n'être pas plus vicieux que lui. On croit n'être pas tout à fait dans les vices du commun des hommes quand on se voit dans les vices de ces grands hommes. Et cependant, on ne prend pas garde qu'ils sont en cela du commun des hommes. On tient à eux par le bout par où ils tiennent au peuple. Quelque élevés qu'ils soient, ils sont unis au reste des hommes par quelque endroit. Ils ne sont pas suspendus en l'air et séparés de notre société. S'ils sont plus grands que nous, c'est qu'ils ont la tête plus élevée. Mais ils ont les pieds aussi bas que les nôtres. Ils sont tous à même niveau et s'appuient sur la même terre. Et par cette extrémité, ils sont aussi abaissés que nous, que les enfants, que les bêtes. C'est le combat qui nous plaît et non pas la victoire. On aime avoir les combats des animaux, non le vainqueur acharné sur le vaincu. Que voulait-on voir sinon la fin de la victoire? Et dès qu'elle est arrivée, on en est sous. Ainsi dans le jeu, ainsi dans la recherche de la vérité. On aime avoir dans les disputes le combat des opinions, mais de contempler la vérité trouvée, point du tout. Pour la faire remarquer avec plaisir, il faut la faire voir naissant de la dispute. De même dans les passions, il y a du plaisir à en voir deux contraires se heurter. Mais quand l'une est maîtresse, ce n'est plus que brutalité. Nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses. Ainsi, dans la comédie, les scènes contentes sans crainte ne valent rien. Ni les extrêmes misères sans espérance, ni les amours brutales. On n'apprend pas aux hommes à être honnêtes gens, et on leur apprend tout le reste. Et cependant, ils ne se piquent de rien tant que de cela. Ainsi, ils ne se piquent de savoir que la seule chose qu'ils n'apprennent point. Le sot projet que Montaigne a eu de se peindre, et cela non pas en passant et contre ses maximes, comme il arrive à tout le monde de faillir, mais par ses propres maximes et par un dessein premier et principal, car de dire des sottises par hasard et par faiblesse, c'est un mal ordinaire, mais d'en dire à dessein, c'est ce qui n'est pas supportable, et d'en dire de telle que celle-là. Ceux qui sont dans le dérèglement disent à ceux qui sont dans l'ordre que ce sont eux qui s'éloignent de la nature, et ils la croient suivre, comme ceux qui sont dans un vaisseau croient que ceux qui sont au bord s'éloignent. Le langage est pareil de tous côtés. Il faut avoir un point fixe pour en juger. Le port règle ceux qui sont dans un vaisseau. Mais où trouverons-nous ce point dans la morale? Plaindre les malheureux n'est pas contre la concupiscence. Au contraire, on est bien aise de pouvoir rendre ce témoignage d'humanité et s'attirer la réputation de tendresse sans qu'il en coûte rien. Ainsi, ce n'est pas grand-chose. qui aurait eu l'amitié du roi d'Angleterre, du roi de Pologne et de la reine de Suède? Aurait-il cru pouvoir manquer de retraite et d'asile au monde? Les choses ont diverses qualités et l'âme diverses inclinations, car rien n'est simple de ce qui s'offre à l'âme, et l'âme ne s'offre jamais simple à aucun sujet. De là vient qu'on pleure et qu'on rit quelquefois d'une même chose. Nous sommes si malheureux que nous ne pouvons prendre plaisir à une chose qu'à condition de nous fâcher si elle nous réussit mal. Ce que mille choses peuvent faire et font à toute heure. Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans être touché du mal contraire, aurait trouvé le point. Il y a diverses classes de forts, de beaux, de bons esprits et de pieux, dont chacun doit régner chez soi, non ailleurs. Ils se rencontrent quelquefois. Et le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître l'un de l'autre, car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas. Et leur faute est de vouloir régner partout. Rien ne le peut, non pas même la force. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est maîtresse que des actions extérieures. Ferox gens nulla me seguitam sine armis putat. Ils aiment mieux la mort que la paix. Les autres aiment mieux la mort que la guerre. Toute opinion peut être préférée à la vie, dont l'amour paraît si fort et si naturel. Qu'il est difficile de proposer une chose au jugement d'un autre sans corrompre son jugement par la manière de la lui proposer. Si on dit « je le trouve beau, je le trouve obscur », on entraîne l'imagination à ce jugement, ou l'on irrite au contraire. Il vaut mieux ne rien dire, car alors il juge selon ce qu'il est, c'est-à-dire selon ce qu'il est alors et selon que les autres circonstances, dont on n'est pas auteur, l'auront disposé. Si ce n'est que ce silence ne fasse aussi son effet selon le tour et l'interprétation qu'il sera en humeur d'y donner, ou selon qu'il conjecturera de l'air du visage et du ton de la voix. Tant il est aisé de démonter un jugement de son assiette naturelle, ou plutôt, tant il y en a peu de ferme et de stable. Les platoniciens et même Épictète et ses sectateurs croient que Dieu est seul digne d'être aimé et admiré. Et cependant, ils ont désiré d'être aimés et admirés des hommes. Ils ne connaissent pas leur corruption. S'ils se sentent portés à l'aimer et à l'adorer, et qu'ils y trouvent leur principale joie, qu'ils s'estiment bons à la bonne heure. Mais s'ils y sentent de la répugnance, s'ils n'ont aucune pente qu'à se vouloir établir dans l'estime des hommes, et que pour toute perfection, ils fassent seulement que, sans forcer les hommes, ils leur fassent trouver leur bonheur à les aimer, je dirais que cette perfection est horrible. Quoi? Ils ont connu Dieu, et n'ont pas désiré uniquement que les hommes l'aimassent. Ils ont voulu que les hommes s'arrêtassent à eux. Ils ont voulu être l'objet du bonheur volontaire des hommes. Que l'on a bien fait de distinguer entre les hommes par l'extérieur plutôt que par les qualités intérieures. Qui passera de nous deux? Qui cédera la place à l'autre? Le moins habile? Mais je suis aussi habile que lui. Il faudra se battre sur cela. Il a quatre laquais, je n'en ai qu'un. Cela est visible, il n'y a qu'à compter. C'est à moi de céder, et je suis un sot si je le conteste. Nous voilà en paix par ce moyen, ce qui est le plus grand des biens. Le temps amortit les afflictions et les querelles parce qu'on change et qu'on devient comme une autre personne. Ni l'offensant ni l'offensé ne sont plus les mêmes. C'est comme un peuple qu'on a irrité et qu'on reverrait après deux générations. Ce sont encore les Français, mais non les mêmes. il est indubitable que l'âme est mortelle ou immortelle. Cela doit mettre une différence entière dans la morale. Et cependant, les philosophes ont conduit la morale indépendamment de cela. Quel étrange aveuglement! Le dernier acte est toujours sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais.